De Jean-Baptiste Gresset, Vervaire, ou Les voyages du perroquet de la Visitation de Nevers. Chant premier. Vous, près de qui les grâces solitaires brillent sans phare et règnent sans fierté. Vous, dont l'esprit, né pour la vérité, sait allier à des vertus austères le goût, les ris, l'aimable liberté. Puisqu'à vos yeux vous voulez que je trace d'un noble oiseau la touchante disgrâce, soyez ma muse, échauffez mes accents, et prêtez-moi ces sons intéressants, ces tendres sons que forma votre lyre lorsque Sultane, au printemps de ses jours, fut enlevée à vos tristes amours et descendit au ténébreux empire. De mon héros, les illustres malheurs peuvent aussi se promettre vos pleurs. Sur sa vertu, par le sort traversé, sur son voyage et ses longues erreurs, on aurait pu faire une autre odyssée, et, par 20 chants, endormir les lecteurs. On aurait pu, des fables surannées, ressusciter les diables et les dieux. Des faits d'un mois occupaient des années, et, sur des tons d'un sublime ennuyeux, psalmodier la course infortunée d'un perroquet, non moins brillant qu'aîné, non moins dévot, plus malheureux que lui. Mais trop de vers entraînent trop d'ennuis. Les muses sont des abeilles volages. Leur goût voltige, ils fuient les longs ouvrages, et, ne prenant que la fleur d'un sujet, vole bientôt sur un nouvel objet. Dans vos leçons, j'ai puisé ces maximes. Puissent vos lois se lire dans mes rimes. Si, trop sincère, en traçant ces portraits, j'ai dévoilé les mystères secrets, l'art des parloirs, la science des grilles, les graves riens, les mystiques vétilles, votre enjouement me passera ses traits. Votre raison, exempte de faiblesse, sait vous sauver ces fades petitesses. Sur votre esprit, soumis au seul devoir, l'illusion n'eut jamais de pouvoir. Vous savez trop qu'un front que l'art déguise plaît moins au ciel qu'une aimable franchise. Si la vertu se montrait aux mortels, ce ne serait ni par l'art des grimaces, ni sous des traits farouches et cruels, mais sous votre air, ou sous celui des grâces qu'elle viendrait mériter nos autels. Dans maint auteur de science profonde, j'ai lu qu'on perd à trop courir le monde. Très rarement en devient-on meilleur. Un sort errant ne conduit qu'à l'erreur. Il nous vaut mieux vivre au sein de nos lares, et conserver, paisible casanier, notre vertu dans nos propres foyers, que parcourir bords lointains et barbares, sans quoi le cœur, victime des dangers, revient chargé des vices étrangers. L'affreux destin du héros que je chante en éternise une preuve touchante. Tous les échos des parloirs de Nevers, si l'on en doute, attesteront mes vers. À Nevers, donc, chez les visitandines, vivait naguère un perroquet fameux, à qui son art et son cœur généreux, ses vertus même et ses grâces badines, auraient dû faire un sort moins rigoureux, si les beaux cœurs étaient toujours heureux. Vervaire, c'était le nom du personnage, transplanté là de l'Indien rivage, fut, jeune encore, ne sachant rien de rien, au sudit cloître enfermé pour son bien. Il était beau, brillant, leste et volage, aimable et franc comme on l'est au bel âge, né tendre et vif, mais encore innocent. Bref, digne oiseau d'une si sainte cage, par son caquet digne d'être en couvent. Pas n'est besoin, je pense, de décrire les soins des sœurs, des nonnes, c'est tout dire, et chaque mère, après son directeur, n'aimait rien tant. Même dans plus d'un cœur, ainsi l'écrit un chroniqueur sincère, souvent l'oiseau l'emporta sur le père. Ils partageaient dans ce paisible lieu tous les sirops dont le cher père, en Dieu, grâce aux bienfaits des nonnettes sucrées, réconfortait ses entrailles sacrées. Objet permis à leur oisif amour, Verver était l'âme de ce séjour. Exceptez-en quelques vieilles dolentes, des jeunes cœurs jalouses surveillantes, il était cher à toute la maison. N'étant encore dans l'âge de raison, libre, il pouvait et tout dire et tout faire. Il était sûr de charmer et de plaire. Des bonnes sœurs égayant les travaux, il becquetait et guimpes et bandeaux. Il n'était point d'agréable parti s'il n'y venait briller, caracoler, papillonner, siffler, rossignoler. Il badinait, mais avec modestie, avec cet air timide et tout prudent qu'une novice a même en badinant. Par plusieurs voix, interrogé sans cesse, il répondait à tout avec justesse. Tel autrefois César, en même temps, dictait à quatre en style différent. Admis partout, si l'on en croit l'histoire, l'amant chéri mangeait au réfectoire. Là, tout s'offrait à ses friands désirs. Outre qu'encore, pour ses menus plaisirs, pour occuper son ventre infatigable, pendant le temps qu'il passait hors de table, mille bonbons, mille exquises douceurs chargeaient toujours les poches de nos sœurs. Les petits soins, les attentions fines, sont nés, dit-on, chez les visitandines. L'heureux Verver l'éprouvait chaque jour. Plus mitonné qu'un perroquet de cour, tout s'occupait du beau pensionnaire. Ses jours coulaient dans un noble loisir. Au grand dortoir, il couchait d'ordinaire. Là, de cellules, il avait à choisir. Heureuse encore, trop heureuse la mère, dont il daignait au retour de la nuit, par sa présence, honorer le réduit. Très rarement, les antiques discrètes logeaient l'oiseau. Des novices proprettes, l'alcôve simple était plus de son goût, car remarquez qu'il était propre en tout. Quand, chaque soir, le jeune anachorète avait fixé sa nocturne retraite, jusqu'au lever de l'astre de Vénus, il reposait sur la boëte aux anus. À son réveil, de la fraîche nonnette, libre témoin, il voyait la toilette. Je dis « toilette » et je le dis tout bas. Oui, quelque part j'ai lu qu'il ne faut pas, au front voilé, des miroirs moins fidèles qu'aux fronts ornés de pompons et dentelles. Ainsi qu'il est pour le monde et les cours, un art, un goût de modes et d'atours, il est aussi des modes pour le voile. Il est un art de donner deux retours à l'étamine, à la plus simple toile. Souvent, l'essaim des folâtres amours, essaim qui sait franchir grilles et tours, donne au bandeau une grâce piquante, un air galant à la guimpe flottante. Enfin, avant de paraître au parloir, on doit au moins deux coups d'œil au miroir. Ceci soit dit, entre nous, en silence. Sans autre écart, revenons au héros. Dans ce séjour de loisive indolence, Verver vivait sans ennui, sans travaux. Dans tous les cœurs, il régnait sans partage. Pour lui, sœur Thècle oubliait les moineaux. Quatre serins en étaient morts de rage. Et deux matous, autrefois en faveur, dépérissaient d'envie et de langueur. Qui l'aurait dit ? Dans ces jours pleins de charme, qu'en pure perte on cultivait ses mœurs, qu'un temps viendrait, temps de crimes et d'alarmes, où ce vervaire, tendre idole des cœurs, ne serait plus qu'un triste objet d'horreur. Arrête, muse, et retarde les larmes que doit coûter l'aspect de ces malheurs, fruit trop amer des égards de nos sœurs. Chant deuxième. On juge bien qu'étant à telle école, point ne manquait du don de la parole. L'oiseau disait, hormis dans les repas, tel qu'une nonne il ne déparlait pas. Bien est-il vrai qu'il parlait comme un livre, toujours d'un ton confit en savoir vivre. Il n'était point de ces fiers perroquets que l'air du siècle a rendu trop coquets, et qui, sifflés par des bouches mondaines, n'ignorent rien des vanités humaines. Vervaire était un perroquet dévot, une belle âme innocemment guidée. Jamais du mal il n'avait eu l'idée. Ne disait onc un immodeste mot. Mais en revanche, il savait des cantiques, des oremus, des colloques mystiques. Il disait bien son bénédicité, et notre mère et votre charité. Il savait même un peu de soliloque et des traits fins de Marie à la coque. Il avait eu dans ce docte manoir tous les secours qui mènent au savoir. Il était là maintes filles savantes qui, mot pour mot, portaient dans leur cerveau tous les Noëls anciens et nouveaux. Instruit, formé par leurs leçons fréquentes, bientôt l'élève égala ses régentes. De leur ton même, adroit imitateur, il exprimait la pieuse lenteur, les saints soupirs, les notes languissantes du chant des sœurs, colombes gémissantes. Finalement, Vervaire savait, par cœur, tout ce que c'est une mère de cœur. Trop resserré dans les bornes d'un cloître, un tel mérite au loin se fit connaître. Dans tout Nevers, du matin jusqu'au soir, il n'était bruit que des scènes mignonnes du perroquet des bienheureuses nonnes. De Moulins même on venait pour le voir. Le beau Vervaire ne bougeait du parloir. Sœur Mélanie, en guimpe toujours fine, portait l'oiseau. D'abord, aux spectateurs, elle en faisait admirer les couleurs, les agréments, la douceur enfantine. Son air heureux ne manquait point les cœurs. Mais la beauté du tendre néophyte n'était encore que le moindre mérite. On oubliait ses attraits enchanteurs dès que sa voix frappait les auditeurs. Orné, rempli de sainte gentillesse que lui dictaient les plus jeunes professes, l'illustre oiseau commençait son récit. À chaque instant, de nouvelles finesses, des charmes neufs variaient son débit. Éloge unique et difficile à croire, pour tout parleur qui dit publiquement. Nul ne dormait dans tout son auditoire. Quel orateur en pourrait dire autant? On l'écoutait, on vantait sa mémoire. Lui, cependant, stylé parfaitement, bien convaincu du néant de la gloire, se rengorgeait toujours dévotement et triomphait toujours modestement. Quand il avait débité sa science, serrant le bec et parlant en cadence, il s'inclinait d'un air sanctifié et laissait là son monde édifié. Il n'avait dit que des phrases gentilles, que des douceurs, excepté quelques mots de médisance et tels propos de filles que par hasard il apprenait aux grilles ou que nos sœurs traitaient dans leur enclos. Ainsi vivait, dans ce nid délectable, en maître, en saint, en sage véritable, père Vervaire, cher à plus d'une ébé. Gras comme un moine, et non moins vénérable, beau comme un cœur, savant comme un abbé, toujours aimé comme toujours aimable, civilisé, musqué, pincé, rangé, heureux enfin, s'il n'eût pas voyagé. Mais vint ces temps d'affligeante mémoire, ce temps critique où s'éclipse sa gloire. Ô crime, ô honte, ô cruel souvenir, fatal voyage, aux yeux de l'avenir, que ne peut-on en dérober l'histoire? Ah, qu'un grand nom est un bien dangereux! Un sort caché fut toujours plus heureux. Sur cet exemple, on peut ici m'en croire. Trop de talent, trop de succès flatteur, traînent souvent la ruine des mœurs. Ton nom, Verver, tes prouesses brillantes ne furent point bornées à ces climats. La renommée annonça tes appas et vint porter ta gloire jusqu'à Nantes. Là, comme on sait, la visitation a son bercail de révérendes mères, qui, comme ailleurs, dans cette nation, à tout savoir ne sont pas les dernières. Par quoi, bientôt, apprenant des premières ce qu'on disait du perroquet vanté, désirent leur vin d'en voir la vérité. Désir de fille est un feu qui dévore. Désir de nonne est cent fois pis encore. Déjà les cœurs s'envolent à Nevers. Voilà d'abord 20 têtes à l'envers pour un oiseau. L'on écrit tout à l'heure en hivernois à la supérieure pour la prier que l'oiseau plein d'attrait soit pour un temps amené par la Loire et que, conduit au rivage nantais, lui-même il puisse y jouir de sa gloire et se prêter à de tendres souhaits. La lettre part. Quand viendra la réponse? Dans 12 jours. Quel siècle jusque-là! Lettre sur lettre et nouvelle semonce. On ne dort plus. Sœur Cécile en mourra. Or, à Nevers, arrive enfin l'épître. Grave sujet! On tient le grand chapitre. Telle requête effarouche d'abord. Perdre Verver? Ô ciel, plutôt la mort! Dans ces tombeaux, sous ces tours isolées, que ferons-nous si ce cher oiseau sort? Ainsi parlaient les plus jeunes voilées, dont le cœur vif, et là de son loisir, s'ouvrait encore à l'innocent plaisir. Et dans le vrai, c'était la moindre chose que cette troupe étroitement enclose, à qui d'ailleurs tout autre oiseau manquait, eut pour le moins un pauvre perroquet. La vie, pourtant, des mères assistantes, de ce sénat antique présidente, dont le vieux cœur aimait moins vivement, fut d'envoyer le pupille charmant pour 15 jours. Car, en tête prudente, elle craignait qu'un refus obstiné ne les brouillât avec nos sœurs de Nantes. Ainsi jugea l'état embeguiné. Après ce bile des mille dits de l'ordre, dans la commune arrive grand désordre. Quel sacrifice! Y peut-on consentir? Est-il donc vrai? Dit la sœur Séraphine. Quoi, nous vivons et Verver va partir? D'une autre part, la mère sacristine 3 fois pâlit, soupire 4 fois, pleure, frémit, se pâme, perd la voix. Tout est en deuil. Je ne sais quel présage d'un noir crayon leur trace ce voyage. Pendant la nuit, des songes pleins d'horreur du jour encore redoublent la terreur. Trop vain regret, l'instant funeste arrive. Ja, tout est prêt sur la fatale rive. Il faut enfin se résoudre aux adieux et commencer une absence cruelle. Ja, chaque sœur gémit en tourterelle et plaint d'avance un veuvage ennuyeux. Que de baisers au sortir de ces lieux reçus Verver, quelles tendres alarmes! On se l'arrache, on le baigne de larmes. Plus il est près de quitter ce séjour, plus on lui trouve et d'esprit et de charme. Enfin, pourtant, il a passé le tour du monastère, avec lui fuit l'amour. Pars, va, mon fils, vole où l'honneur t'appelle. Reviens charmant, reviens toujours fidèle, que les zéphyrs te portent sur les flots. Tandis qu'ici, dans un triste repos, je languirai, forcément exilé, sombre, inconnu et jamais consolé. Pars, cher Verver, et dans ton heureux cours, sois pris partout pour l'aîné des amours. Tel fut l'adieu d'une nonain poupine, qui, pour distraire et charmer sa langueur, entre deux draps, avait à la sourdine très souvent fait l'oraison dans Racine, et qui, sans doute, aurait de très grands cœurs, loin du couvent, suivi l'oiseau parleur. Mais, en effet, on embarque le drôle. Jusqu'à présent, vertueux, ingénu, jusqu'à présent, modeste en sa parole. Puisse son cœur, constamment défendu au cloître, un jour rapporter sa vertu. Quoi qu'il en soit, déjà la rame vole. Du bruit des eaux, les airs ont retenti. Un bon vent souffle, on part, on est parti. Chant troisième. La même nef légère et vagabonde, qui voiturait le saint oiseau sur l'onde, portait aussi deux nymphes, trois dragons, une nourrice, un moine, deux gascons. Pour un enfant qui sort du monastère, c'était échoir en digne compagnon. Aussi, Verver, ignorant leur façon, se trouva là comme en terre étrangère. Nouvelle langue et nouvelle leçon. L'oiseau surpris n'entendait point leur style. Ce n'était plus parole d'évangile. Ce n'était plus ses pieux entretiens, ses traits de Bible et d'oraison mentale qu'il entendait chez nos douces vestales. Mais de gros mots, et non des plus chrétiens. Car les dragons, race assez peu dévote, ne parlaient là que langue de gargote. Charmant au mieux les ennuis du chemin, il ne fêtait que le patron du vin. Puis les gascons et les trois péronnelles y concertaient sur des tons de ruelle. De leur côté, les bateliers juraient, rimaient en Dieu, blasphémaient et sacraient. Leurs voix, stylées aux tons mâles et fermes, articulaient sans rien perdre des termes. Dans le fracas, confus, embarrassé, Verver gardait un silence forcé. Triste, timide, il n'osait se produire, et ne savait que penser ni que dire. Pendant la route, on voulut par faveur faire causer le perroquet rêveur. Frère Lubin, d'un ton peu monastique, interrogeant le beau mélancolique, l'oiseau bénin prend son air de douceur, et, vous poussant un soupir méthodique, d'un ton pédant, répond « Ave, ma sœur !» À cet ave, jugez si l'on dut rire. Tous en chorus bernent le pauvre sire. Ainsi berné, le novice interdit comprit en soi qu'il n'avait pas bien dit, et qu'il serait malmené des commères s'il ne parlait la langue des confrères. Son cœur né fier, et qui jusqu'à ce temps avait été nourri d'un doux encens, ne put garder sa modeste constance dans cet assaut de mépris flétrissant. À cet instant, en perdant patience, Verver perdit sa première innocence. Dès lors, ingrat, en soi-même, il maudit les chères sœurs, ses premières maîtresses, qui n'avaient point su mettre en son esprit du beau français les brillantes finesses, les sons nerveux et les délicatesses. À les apprendre, il met donc tous ses soins, parlant très peu, mais n'en pensant pas moins. D'abord, l'oiseau, comme il n'était pas bête, pour faire place à de nouveaux discours, vit qu'il devait oublier pour toujours tous les godets qui farcissaient sa tête. Ils furent tous oubliés en 2 jours, tant il trouva la langue à la dragonne plus du bel air que les termes de nonne. En moins de rien, l'éloquent animal, hélas, jeunesse apprend trop bien le mal. L'animal, dis-je, éloquent et docile, en moins de rien fut rudement habile. Bien vite il sut jurer et maugréer, mieux qu'un vieux diable au fond d'un bénitier. Il démentit les célèbres maximes où nous lisons qu'on ne vient au grand crime que par degrés. Il fut un scélérat, prophète d'abord et sans noviciat. Trop bien sut-il graver en sa mémoire tout l'alphabet des bateliers de Loire. Dès que Disseux, dans quelque vertigo, lâchait un mort, Vert-Vert faisait l'écho. L'or, applaudi par la bande sudite, fier et content de son petit mérite, il n'aima plus que le honteux honneur de savoir plaire au monde suborneur, et dégradant son généreux organe, il ne fut plus qu'un orateur profane. Faut-il qu'ainsi l'exemple séducteur du ciel au diable emporte un jeune cœur? Pendant ces jours, durant ces tristes scènes, que faisiez-vous dans vos cloîtres déserts, chastes iris du couvent de Nevers? Sans doute, hélas, vous faisiez des neuvaines pour le retour du plus grand des ingrats, pour un volage indigne de vos peines, et qui, soumis à de nouvelles chaînes, de vos amours ne faisait plus de cas. Sans doute, alors, l'accès du monastère était d'ennui tristement obsédé. La grille était dans un deuil solitaire, et le silence était presque gardé. Cessez vos vœux, Vert-Vert n'en est plus digne. Vert-Vert n'est plus cet oiseau révérend, ce perroquet d'une humeur si bénigne, ce cœur si pur, cet esprit si fervent. Vous le dirai-je, il n'est plus qu'un brigand, lâche apostat, blasphémateur insigne. Les vents légers et les nymphes des eaux ont moissonné le fruit de vos travaux. Ne vantez point sa science infinie. Sans la vertu, que vaut un grand génie? N'y pensez plus. L'infâme a, sans pudeur, prostitué ses talents et son cœur. Déjà pourtant, on approche de Nantes, où languissaient nos sœurs impatientes. Pour leur désir, le jour trop tard naissait. Des cieux, trop tard, le jour disparaissait. Dans ces ennuis, l'espérance flatteuse, à nous tromper toujours ingénieuse, leur promettait un esprit cultivé, un perroquet noblement élevé, une voix tendre, honnête, édifiante, des sentiments, un mérite achevé. Mais, ô douleur, ô vaine et fausse attente! La nef arrive et l'équipage en sort. Une tourière était assise au port dès le départ de la première lettre. Là, chaque jour, elle venait se mettre, ses yeux errants sur le lointain des flots, semblait hâter le vaisseau du héros. En débarquant auprès de la béguine, l'oiseau madré la connut à la mine, à son œil prude ouvert en tapinois, à sa grande coiffe, à sa fine étamine, à ses gants blancs, à sa mourante voix, et mieux encore, à sa petite croix. Il en frémit, et même il est croyable qu'en militaire il la donnait au diable. Trop mieux aimant suivre quelques dragons, dont il savait le bachique jargon, qu'aller apprendre encore les litanies, la révérence et les cérémonies. Mais force fut au grivois dépité d'être conduit au gîte détesté. Malgré ses cris, la tourière l'emporte. Il la mordait, dit-on, de bonne sorte, chemin faisant. Les uns disent au cou, d'autres au bras, on ne sait pas bien où. D'ailleurs, qu'importe. À la fin, non sans peine, dans le couvent la béate l'emmène. Elle l'annonce, avec grande rumeur, le bruit en cours. Aux premières nouvelles, la cloche sonne. On était lors au cœur. On quitte tout, on court, on a des ailes. C'est lui, ma sœur, il est au grand parloir. On vole en foule, on grille de devoirs. Les vieilles même, au marché symétrique, des ans tardifs ont oublié le poids. Tout rajeunit, et la mère Angélique courut alors pour la première fois. Chant quatrième. On voit enfin, on ne peut se repaître assez les yeux des beautés de l'oiseau. C'était raison, car le fripon, pour être moins bon garçon, n'en était pas moins beau. Cet œil guerrier et cet air petit maître lui prêtaient même un agrément nouveau. Faut-il, grand Dieu, que sur le front d'un traître brillent ainsi les plus tendres attraits? Que ne peut-on distinguer et connaître les cœurs pervers à de difformes traits? Pour admirer les charmes qu'ils rassemblent, toutes les sœurs parlent toutes ensemble. En entendant cet essaim bourdonner, on eut à peine entendu Dieu tonner. Lui, cependant, parmi tout ce vacarme, sans daigner dire un mot de piété, roulait les yeux d'un air de jeune carme. Premier grief. Cet air trop effronté fut un scandale à la communauté. En second lieu, quand la mère prieure, d'un air auguste, en fille intérieure, voulut parler à l'oiseau libertin, pour premier mot et pour toute réponse, nonchalamment et d'un air de dédain, sans bien songer aux horreurs qu'il prononce, mon gars répond avec un ton faquin, « Par la corbleu, que les nonnes sont folles !» L'histoire dit qu'il avait, en chemin, d'un de la troupe entendu ces paroles. À ce début, la sœur Saint-Augustin, d'un air sucré, voulant le faire taire, et lui disant « Fis donc, mon très cher frère !» Le très cher frère, indocile et mutin, vous la rima très richement en teint. « Vive Jésus, il est sorcier, ma mère !» reprend la sœur. « Juste Dieu, quel coquin ! Quoi, c'est donc là ce perroquet divin ?» Ici, Vervaire, en vrai gibier de grève, l'apostropha d'un « La peste te crève !» Chacun vint pour brider le caquet du grenadier, chacune eut son paquet. Turlupinant les jeunes précieuses, il imitait leur courroux babillard. Plus déchaîné sur les vieilles grondeuses, il bafouait leurs sermons nasillards. Ce fut bien pis, quand, d'un ton de corsaire, là, excédé de leurs fades propos, bouffi de rage, écumant de colère, il entonna tous les horribles mots qu'il avait su rapporter des bateaux, jurant, sacrant d'une voix dissolue, faisant passer tout l'enfer en revue, les bœufs et les feux voltigés sur son bec. Les jeunes sœurs crurent qu'il parlait grec. Jour de Dieu, mort, mille pipes de diable! Toute la grille, à ces mots effroyables, tremble d'horreur. Les nonnettes sans voix font, en fuyant, mille signes de croix. Toutes, pensant être à la fin du monde, courent en poste, aux caves du couvent. Et sur son nez, la mère Cunégonde, se laissant choir, perd sa dernière dent. Ouvrant à peine un sépulcral organe, « Père éternel !» dit la sœur Bibiane. « Miséricorde ! Ah, qui nous a donné cet antéchrist, ce démon incarné ? Mon doux sauveur, en quelle conscience peut-il ainsi jurer comme un damné ? Est-ce donc là l'esprit et la science de ce Vervaire si chéri, si prôné ? Qu'il soit banni, qu'il soit remis en route. Ô Dieu d'amour ! Reprend la sœur. Écoute, quelles horreurs ! chez nos sœurs de Nevers. Quoi, parle-t-on ce langage pervers? Quoi, c'est ainsi qu'on forme la jeunesse? Quelle hérétique! Ô divine sagesse! Qu'il n'entre point! Avec ce Lucifer en garnison, nous aurions tout l'enfer. Conclusion, Verbère est mis en cage. On se résout, sans tarder davantage, à renvoyer le parleur scandaleux. Le pèlerin ne demandait pas mieux. Il est proscrit, déclaré détestable, abominable, atteint et convaincu d'avoir tenté d'entamer la vertu des saintes sœurs. Toutes de l'exécrable signent l'arrêt en pleurant le coupable. Car quel malheur qu'il fût si dépravé, n'étant encore qu'à la fleur de son âge, et qu'il portât sous un si beau plumage la fière humeur d'un escroc achevé, l'air d'un païen, le cœur d'un réprouvé. Il part enfin porté par la tourière, mais sans la mordre, en retournant au port. Une cabane emporte le compère, et sans regret il fuit ce triste bord. De ses malheurs, telle fut l'Iliade. Quel désespoir! Lorsqu'enfin, de retour, il vint donner pareille sérénade. Pareil scandale en son premier séjour. Que résoudront nos sœurs inconsolables? Les yeux en pleurs, les sens d'horreur troublés, en manteau long, en voile redoublé, au discrétoire, entre 9 vénérables. Figurez-vous 9 siècles assemblés. Là, sans espoir d'aucun heureux suffrage, privé des sœurs qui plaideraient pour lui, en plein parquet, enchaîné dans sa cage, Verbère paraît sans gloire et sans appui. On est aux voix. Déjà 2 des Sibylles, en billets noirs, ont crayonné sa mort. 2 autres sœurs, un peu moins imbéciles, veulent qu'en proie à son malheureux sort, on le renvoie au rivage profane qui le vit naître avec le noir Brachman. Mais de concert, les 5 dernières voix du châtiment déterminent le choix. On le condamne à 2 mois d'abstinence, 3 de retraite et 4 de silence. Jardin, toilette, alcôves et biscuits, pendant ce temps, lui seront interdits. Ce n'est point tout. Pour comble de misère, on lui choisit pour garde, pour geôlière, pour entretien, l'Alecton du couvent, une converse, infante douairière, singe voilé, squelette octogénaire, spectacle fait pour l'œil d'un pénitent. Malgré les soins de l'Argus inflexible, dans leur loisir, souvent d'aimables sœurs, venant le plaindre avec un air sensible, de son exil suspendaient les rigueurs. Sœur Rosalie, au retour de matine, plus d'une fois lui porta des pralines. Mais dans les fers, loin d'un libre destin, tous les bonbons ne sont que chicotins. Couvert de honte, instruit par l'infortune, ou las de voir sa compagne importune, l'oiseau contrit se reconnut enfin. Il oublia les dragons et le moine, et pleinement remis à l'unisson avec nos sœurs, pour l'air et pour le ton, il redevint plus dévot qu'un chanoine. Quand on fut sûr de sa conversion, le vieux divan désarmant sa vengeance, de l'exilé borna la pénitence. De son rappel, sans doute, l'heureux jour va, pour ces lieux, être un jour d'allégresse. Tous ces instants donnés à la tendresse seront filés par la main de l'amour. Que dis-je? Hélas! Ô plaisirs infidèles! Ô vains attraits des délices mortels! Tous les dortoirs étaient jonchés de fleurs, café parfait, chansons, course légère, tumulte aimable et liberté plénière. Tout exprimait de charmantes ardeurs. Rien n'annonçait de prochaine douleur. Mais de nos sœurs, ô largesse indiscrète, du sein des maux d'une longue diète, passant trop tôt dans des flots de douceur, bourrés de sucre et brûlés de liqueur, ververs, tombant sur un tas de dragées, en noirs cyprès vissés roses changés. En vain les sœurs tâchaient de retenir son âme errante et son dernier soupir. Ce doux excès attend sa destinée, du tendre amour victime fortunée, il expira dans le sein du plaisir. On admirait ces paroles dernières. Vénus, enfin, lui fermant les paupières, dans l'Élysée et les sacrés bosquets, le mène au rang des héros perroquets, près de celui dont l'amant de Corinne a pleuré l'ombre et chanté la doctrine. Qui peut narrer combien l'illustre mort fut regretté? La sœur dépositaire en composa la lettre circulaire d'où j'ai tiré l'histoire de son sort. Pour le garder à la race future, son portrait fut tiré d'après nature. Plus d'une main conduite par l'amour sut lui donner une seconde vie par les couleurs et par la broderie. Et la douleur, travaillant à son tour, peignit, broda des larmes alentour. On lui rendit tous les honneurs funèbres que les licons rendent aux oiseaux célèbres. Au pied d'un myrte, on plaça le tombeau, qui couvre encore le mausole nouveau. Là, par la main des tendres Artémises, en lettres d'or, ses rimes fut mises sur un porphyre environné de fleurs. En les lisant, on sent naître ses pleurs. Novice, qui venait causer dans ses bocages, à l'insu de nos graves sœurs, un instant, s'il se peut, suspendez vos ramages. Apprenez nos malheurs. Vous vous taisez. Si c'est trop vous contraindre, parlez, mais parlez pour nous plaindre. Un mot vous instruira de nos tendres douleurs. Sigis, ververs, sigissent tous les cœurs. On dit pourtant, pour terminer ma glose en peu de mots, que l'ombre de l'oiseau ne loge plus dans le sudit tombeau, que son esprit dans les nonnes repose, et qu'en tout temps, par la métempsycose, de sœur en sœur, l'immortel perroquet transportera son âme et son caquet.